Vous pouvez préparer vos Bibles dans le livre des Psaumes, Psaume 12. Au chef des chantres sur la harpe à huit cordes, Psaume de David. Sauve, Éternel, car les hommes pieux s'en vont. Les fidèles disparaissent d'entre les fils de l'homme. On se dit des faussetés les uns aux autres. On a sur les lèvres des choses flatteuses. On parle avec un cœur double. Que l'Éternel extermine toutes les lèvres flatteuses, la langue qui discourt avec arrogance. Ceux qui disent « Nous sommes puissants par notre langue. Nous avons nos lèvres avec nous. Qui serait notre maître? » Parce que les malheureux sont opprimés. Et que les pauvres gémissent. Maintenant, dit l'Éternel, je me lève, j'apporte le salut à ceux contre qui l'on souffle. Les paroles de l'Éternel sont des paroles pures. Un argent éprouvé sur terre au creuset, et sept fois épuré. Toi, Éternel, tu les garderas, tu les préserveras de cette race à jamais. Les méchants se promènent de toutes parts quand la bassesse règne parmi les fils de l'homme. Merci, notre Dieu, de nous avoir donné ta parole, d'être présent parmi nous, de parler, de nous sauver, de nous préserver par cette parole par laquelle tu nous sanctifies, par laquelle tu nous gardes, que tu nous gardes, Seigneur, de la parole des hommes mensongères et trompeuses. Seigneur, puisses-tu nous garder attachés à ta parole. Bénis l'exposition de cette parole et qu'elle puisse renouveler dans nos cœurs notre affection pour elle, l'estime que nous lui portons, l'intérêt, Seigneur, avec lequel nous nous attachons à elle. Nous te le demandons au nom de celui qui est la parole faite chair, Jésus. Amen. Amen. Alors voici, en fait, ce n'est pas le plan que je vais suivre, mais c'est pour vous donner la structure en chiasme. De ce psaume. Un chiasme, souvent, c'est une structure où il y a des correspondances. Donc, A, B, B, A. Donc, on voit la correspondance entre le début et la fin. Il y a même une répétition de l'expression « les fils de l'homme », en hébreu littéralement, « les fils d'Adam », qui se fait écho. Et ça explique un petit peu aussi pourquoi, après avoir affirmé son assurance dans la parole de Dieu, il revient avec quelque chose de négatif au verset 9 parce qu'il correspond au début du psaume. On a au début du psaume les hommes fidèles qui s'en vont et la fin du psaume, les méchants qui sont partout. Donc, l'absence de l'un, l'omniprésence de l'autre. Il y a donc une correspondance entre le début et la fin qui est plus dans l'angle un peu négatif de ce qui manque puis de ce qu'il y a de trop dans notre monde. Et ensuite, parallèlement, il y a une comparaison entre la parole mensongère des hommes, versets 3 à 5, et la parole pure de Dieu, versets 6 à 8. Et donc, les hommes fidèles qui ont besoin de secours, le secours que Dieu leur envoie, c'est sa parole. Et pourquoi est-ce qu'ils ont besoin de secours? Bien, parce qu'ils sont au milieu d'hommes aux lèvres impures qui ont une parole mensongère, qui cherchent à dominer par leur discours trompeur. Et qu'est-ce qui nous délivre de la parole des hommes? C'est la parole de Dieu. Mais donc, la façon qu'on va diviser, je ne vais pas suivre le chiasme, mais plutôt on va faire le début et la fin du psaume en commençant au premier point. Donc, on va traiter le verset 2 et le verset 9 ensemble. Les fidèles s'en vont et les méchants sont partout. Ensuite, on va parler des paroles mensongères des hommes pour finir avec les paroles pures de Dieu. Alors, si on regarde les versets 2 et 9 ensemble, on voit un peu la correspondance. « Sauve Éternel, car les hommes pieux s'en vont. Les fidèles disparaissent d'entre les fils de l'homme. Les méchants se promènent de toutes parts quand la bassesse règne parmi les fils de l'homme. » Les pieux s'en vont, les méchants se promènent partout, comme leur père, le diable. J'ai comparé avec ce qui est dit quand Satan se présente devant l'Éternel pour accuser Job. Et l'Éternel lui dit « D'où viens-tu? » Il dit « Je viens de la terre de m'y promener. » C'est le même verbe. les méchants qui se promènent partout comme leur père qui se promène sur la terre. Donc, les fidèles disparaissent. Et qu'est-ce que ça crée quand les fidèles disparaissent? Bien, la bassesse règne parmi les fils d'Adam. Ils prennent ce qui est bas et ils l'élèvent. Le verset 9 nous dit que quand la bassesse règne, quand ce qui est bas règne, est élevé, on élève ce qui est abject, on élève ce qui est bas aux yeux de Dieu, ce qui est sans valeur, c'est ce que les hommes élèvent par leur discours, par ce qu'ils valorisent. Et il y a un cercle vicieux qui nous est présenté, qu'on voit dans différents textes de la Bible. Moins il y a de justes, plus il y a de méchants. Moins la culture générale, commune, parce qu'on partage un monde entre la semence du serpent et celle de la femme, les deux descendants, ces deux postérités qui cohabitent, par moments pacifiquement, mais à d'autres moments, il y a de l'hostilité. Et lorsque ce royaume commun parmi les hommes, entre les enfants de Dieu et ceux du diable, cohabite, il arrive que les justes soient en grand nombre, qu'ils se multiplient, qu'il y ait des réveils, qu'ils puissent influencer le monde ici-bas, influencer les institutions, la culture, la politique, l'éducation, les valeurs, le droit, et c'est profitable. Mais lorsqu'ils sont en régression, lorsque leur nombre diminue, lorsqu'ils battent en recul, les méchants se multiplient. Proverbe 29, verset 16 nous dit « Quand les méchants se multiplient, le péché s'accroît, mais les justes contempleront leur chute. » Nous avons cette assurance que peu importe, même si on est un petit nombre, même si par moments on semble être en train de perdre la bataille, que le royaume nous appartient. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Mais par moments, même si nous savons ces choses, ça peut être décourageant, désolant d'avoir l'impression qu'il n'y a plus de fidèles, ou presque plus. On se sent comme Élie qui s'écrit dans 1 Roi, chapitre 19, verset 10, « J'ai déployé mon zèle pour l'Éternel, le Dieu des armées, car les enfants d'Israël ont abandonné ton alliance. » Ils ont renversé tes autels et ils ont tué par l'épée tes prophètes. Je suis resté, moi seul, et ils cherchent à m'ôter la vie. Alors, Élie se sent comme le dernier fidèle, le dernier juste. Les prophètes qui ne se sont pas corrompus pour devenir des prophètes de Baal ont été tués par l'épée de Jézabel. Mais Dieu lui rappelle, je me suis réservé 7000 hommes qui n'ont pas fléchi le genou devant Baal. Un reste. Et Dieu a toujours un reste. Parmi les cultures les plus corrompues, les peuples les plus hostiles à la parole de Dieu, Dieu a un reste qu'il préserve. Mais parfois, on se sent en minorité. On a un sentiment similaire à celui d'Élie. On sent un petit peu que le vent tourne en Occident, que les chrétiens n'ont plus le haut du pavé, que leur discours n'est pas bienvenu, qu'il est regardé de travers et est vu comme quelque chose qu'on ne veut plus entendre, qu'on veut faire taire, qu'on veut museler. Et parfois, ce n'est pas seulement au dehors qu'on a l'impression qu'il n'y a plus de fidèles, même au-dedans, parce que David écrit ce psaume, non pas en parlant des païens, non pas en parlant des Philistins, puis il y a trop d'incirconcis comparativement au peuple circoncis d'Israël, mais il parle des méchants en Israël, de ceux qui sont dans le peuple d'Alliance, mais qui semblent disparaître. C'est-à-dire les fidèles qui diminuent. Même au sein du peuple d'Alliance, on ne retrouve plus la crainte de Dieu. Les fidèles disparaissent. Il y a de moins en moins d'hommes de Dieu solides. Et ça peut arriver dans l'Église même, où l'institution de l'Église est toujours là, visuellement présente, toujours sur terre, mais on a l'impression qu'il y a peu d'hommes fidèles. L'apôtre Paul parle aux Corinthiens de ce qu'on appelle parfois les chrétiens charnels, On regarde l'Église, on regarde sa tiédeur, on regarde le peu de crainte de Dieu, l'accent qui est mis pour plaire aux hommes, faire les choses non pas dans la fidélité à Dieu, mais dans ce qu'est-ce qui va fonctionner, qu'est-ce qui va attirer les foules. Et on s'afflige, on se dit, mais où? Les fidèles disparaissent, les pieux s'en vont. Et dans l'Église même s'infiltrent parfois des loups cruels, des impies. Parce que moins il y a de fidèles, moins il y a de piété, moins il y a de crainte de Dieu, plus les boucs s'infiltrent et parmi eux, des loups cruels qui vont faire des ravages dans le troupeau. Donc on peut, nous aussi, s'identifier avec ce que David vit à la fois par la culture générale, commune des hommes, mais aussi l'état général de l'Église confessante qui n'est pas toujours encourageante. Mais le premier mot de David, il déclare « Sauve, Éternel », qu'on pourrait traduire « Au secours, Éternel ». Il appelle le secours de Dieu. Spurgeon était inspiré par l'éloquence de la brièveté de cette prière. Il écrit « Une prière courte, mais douce, suggestive, appropriée et utile, une sorte d'épée angélique à tourner dans tous les sens et à utiliser dans toutes les occasions. De même que les petits navires peuvent pénétrer dans des ports où les plus grands ne peuvent entrer, de même nos brefs cris et nos courtes requêtes peuvent être échangés avec le ciel lorsque notre âme est prise par le vent. Et les affaires de ce monde, au lieu d'exercices de dévotion plus longs, et lorsque le flot de la grâce semble à un niveau trop bas pour permettre le flot d'une supplication plus laborieuse. » Autrement dit, il arrive que nous ayons juste une courte prière, un élan du cœur qui crie à Dieu « Au secours, Seigneur !» Et c'est une prière. Mais j'espère que ce n'est pas votre seule prière. J'espère que nous ne nous rabattons pas seulement sur des « Au secours, Éternel !» et dire « Voilà, j'ai fait mes prières pour aujourd'hui. » Et ma prière est que Dieu nous réveille au niveau de la prière, qui nous amène, comme le dit Jacques dans son épître, à changer notre joie en tristesse, à sentir notre misère, à sentir notre besoin de Dieu pour le chercher ardemment à la prière, sentir qu'il y a des enjeux lourds et sérieux, qu'il y a l'âme de nos enfants qui pèse sur nos cœurs et qu'on doit se mettre à genoux, qu'on doit implorer le Seigneur qu'il fasse grâce et miséricorde et qu'on ne peut pas se contenter de la tiédeur, de la médiocrité dans notre piété, notre prière. Que les hommes pieux s'en vont, qu'on va leur léguer une église moins forte que celle dont on a hérité, plus ravagée, avec peu d'ouvriers pour la moisson, qu'ils vont vivre dans un monde plus hostile que celui qu'on a connu. Mais on est trop fatigué, on est trop bien dans notre confort, on sent pas assez notre misère, on se dit j'ai l'assurance de mon salut, ça ne changera rien, je n'augmenterai pas le nombre d'élus, je ne le diminuerai pas par en priant pas. Et on a des raisonnements charnels qui nous amènent à négliger ce moyen de grâce si important. Il n'y a pas de réveil sans la prière. J'ai aimé comment un commentateur, Robert Hawker, qui est le, peut-être vous avez déjà vu, le « Poor Man Commentary », le commentaire pour l'homme pauvre. Donc, c'était le commentaire « cheap », mais pas « cheap » dans la substance, peut-être « cheap » dans la mise en page, accessible. Et partant de cette idée qu'il est nécessaire de prier au temps où on voit le peuple de Dieu s'affaiblir, il prend Ce que Ésaïe dit, il interprète l'Écriture avec l'Écriture, tu peux revenir à celle en arrière. Pour ensuite faire l'application entre la citation d'Ésaïe et le psaume 12. « Sur tes murs, Jérusalem, j'ai placé des gardes. Ils ne se tairont ni jour ni nuit. Vous qui la rappelez au souvenir de l'Éternel, point de repos pour vous. » Des gardes qui rappellent Jérusalem au souvenir de l'Éternel. Ce n'est pas des gardes comme les autres, c'est des sentinelles, c'est des intercesseurs. Point de repos pour vous et ne lui laissez aucun relâche jusqu'à ce qu'il rétablisse Jérusalem et la rende glorieuse sur la terre. Ne laissez aucun relâche à Dieu jusqu'à ce qu'il rétablisse Jérusalem. Et Robert Hawker écrit, lecteur, le pauvre lecteur, si l'on se préoccupait davantage des intérêts de Sion, l'Église s'en porterait bien. Il est à craindre que lorsque les eaux du sanctuaire sont basses, le peuple ne lutte pas comme il le devrait avec le Seigneur dans la prière. Quand les fidèles s'en vont et que les méchants sont partout, c'est l'heure de prier un petit peu plus fort. Qu'est-ce que ça fait donc que les méchants soient partout? Comment sont-ils partout? Comment est-ce qu'ils se promènent partout? Le psalmiste s'arrête sur le moyen par lequel la bassesse règne, par lequel les méchants piétinent le monde. C'est par leur bouche, c'est par la parole. Cette faculté que Dieu a donnée à l'homme qui le rend semblable à lui, à son image. Dieu parle, l'homme parle. Les animaux ne parlent pas. Nous avons quelque chose de similaire par le corps aux animaux, mais de similaire à Dieu par l'esprit. Et la bouche est la manifestation que nous sommes spirituels, que nous sommes un être pensant, avec une volonté, à l'image de Dieu, capable de spiritualité. Mais la bouche de l'homme déchu sert plutôt le diable que le Créateur. Et le psalmiste nous décrit avec trois caractéristiques la bouche des méchants au verset 3. On se dit des faussetés les uns aux autres. On a sur les lèvres des choses flatteuses. On parle avec un cœur double. Fausseté, lèvres flatteuses, cœur double. La fausseté, bien sûr, on pense au mensonge, le fait que les hommes ne se disent pas que la vérité. Ils se mentent. Mais le mot n'a pas seulement le sens de mentir, dans le sens de cacher la vérité ou de dire le contraire de la vérité. Le mot hébreu qui est employé nous parle de choses de néant. Les hommes ont dans la bouche des choses vides et des choses qui sont fausses, pas nécessairement parce qu'ils cherchent à mentir, mais parce qu'ils croient des choses vides, des choses qui ne sont pas vraies. Ils ont de vaines philosophies. Ils ont une fausse interprétation de la réalité de ce qu'ils sont. Ils ont une fausse moralité. Ils ont une mauvaise compréhension de la réalité et du monde. Et de Dieu. Et donc, on se dit des choses vides, des mensonges, qu'on se communique les uns aux autres, avec des lèvres flatteuses, des lèvres qui s'encouragent les uns les autres, qui sont complaisantes, qui s'approuvent dans des voies erronées, qui s'encouragent dans l'erreur. Les lèvres flatteuses font équipe avec le mensonge, avec les choses de néant pour détruire. Proverbe a beaucoup à nous dire sur les lèvres ou la langue flatteuse. Proverbe 26-28, la langue fausse hait ceux qu'elle écrase et la bouche flatteuse prépare la ruine. Les gens complaisants qui flattent peuvent paraître très gentils, aimants, altruiste, courtois, sympathique. Mais ce n'est pas de l'amour. Ce sont des langues fausses qui écrasent, qui préparent la ruine. Si elles ne sont pas des bouches qui propagent la vérité, et en particulier la vérité de Dieu. Si elles propagent le mensonge des hommes, Proverbe 29, verset 5, « Un homme qui flatte son prochain tend un filet sous ses pas. » qui ne veut rien lui dire pour le froisser, qui ne voudrait surtout pas déranger ses fausses croyances. Je sais qu'on lutte tous avec ça, on n'a pas envie de passer pour des religieux fanatiques, des intolérants, mais de grâce. Si on n'est pas capable de dire à une personne qu'elle est dans le champ, faisons pas semblant d'être d'accord avec elle, de l'approuver tacitement pour pas la contrarier. On fait ça entre croyants. On parle avec des croyants, mais des fois, qui nous racontent des croyances qui sont complètement à l'ouest, qui n'ont aucun fondement biblique. Mais on veut être des gens antichrétiens. On dit rien, on flatte un petit peu. On donne l'impression qu'on est d'accord. Bien sûr, il y a une façon d'être diplomate, il y a une façon d'exprimer un désaccord. On n'est pas obligé de rudoyer les gens. Mais n'ayons pas une langue mensongère qui cherche surtout à avoir l'approbation des hommes parce que nous craignons les hommes plus que Dieu. C'est tendre un filet sous leurs pas. La langue flatteuse, c'est l'arme des faux prophètes et c'est l'évangile des faux croyants. Les faux croyants ne veulent pas croire le vrai évangile qui les amène à la repentance, à renoncer à leurs propres pensées. Ils veulent un évangile qui les conforte, qui les dorlote, qui caresse leur oreille, leur estime, qui les affirme dans leur voix. Ça peut les challenger un petit peu, mais enlève leur pas leur péché favori, leurs idoles auxquelles ils ne veulent pas renoncer. Il ne faut pas une parole qui brusque trop. Ésaïe 30, verset 10, « Ceux qui disent aux voyants, ne voyez pas, et aux prophètes, ne nous prophétisez pas des vérités. Dites-nous des choses flatteuses, prophétisez-nous des chimères. » Il n'y a personne qui dit ça littéralement. Mais quand les hommes ne veulent pas entendre la vérité parce qu'elle heurte trop leurs sentiments, ils disent « Dites-nous des chimères. Dites-moi que je suis beau. Dites-moi que je suis bon. Dites-moi que mes voix sont correctes puis je n'ai rien à changer. » C'est ce que je veux entendre. Eh bien, le jugement de Dieu, c'est de leur donner des faux docteurs selon leur propre démangeaison qui ont des paroles douces et flatteuses. Romains 16, 18 nous dit que de tels hommes ne servent point Christ notre Seigneur, même s'ils ont le nom de Christ à la bouche. Mais leur propre vente, et par des paroles douces et flatteuses, ils séduisent les cœurs des simples. L'Antichrist en chef, comme le dit notre confession de foi, le pape, en est un. Il est le représentant de Jésus. Il a le nom de Christ aux lèvres, mais il ne sert point Christ parce qu'il ne prêche pas son évangile. Il change l'évangile, il change la parole de Dieu à qui mieux pour plaire aux hommes de ce siècle, leur dire des paroles flatteuses. Vous êtes dans des unions illicites et immorales. On va vous bénir! Et il y en a beaucoup qui se croient chrétiens, puis c'est ce qu'ils veulent entendre. Donne-nous en plus! La tromperie, c'est pas juste en dehors du grand christianisme. Il existe un faux christianisme qui passe pour l'Église visible, mais qui est une Église morte, qui n'a rien de la vraie substance parce qu'il n'a plus la parole de Dieu. Donc, fausseté, chose vaine, parole flatteuse, cœur double. Littéralement, le texte dit « il parle avec un cœur et un cœur ». C'est la duplicité. C'est quoi la duplicité? C'est le caractère d'une personne qui cache sa vraie nature, qui joue deux rôles. L'hypocrisie, qui se fait passer pour ce qu'il n'est pas. Donc, le psalmiste est en train de nous décrire le caractère impie de la langue. Ça ne veut pas dire que chaque fois qu'un inconverti parle, c'est toujours avec cette impiété, mais c'est ce qui caractérise fondamentalement le discours des hommes. Jacques nous dit, au chapitre 3, versets 5 et 6, « De même, la langue est un petit membre et elle se vante de grandes choses. Voyez comme un petit feu peut embraser une grande forêt. La langue aussi est un feu. C'est le monde de l'iniquité. La langue est placée parmi nos membres, souillant tout le corps et enflammant le cours de la vie, étant elle-même enflammée par la géhenne. » Le carburant de la langue déchue est diabolique. La géhenne. Et ça se manifeste de tellement de façons. Le juste apprend à dompter sa langue, parce qu'il n'est pas né qu'une langue pure. Nous sommes des hommes aux lèvres impures qui habitent au milieu d'hommes aux lèvres impures. Et on a besoin que nos lèvres soient purifiées. On voit avec Ésaïe dans son appel, c'est ce qui est fait, il y a un tison qui est arraché, puis qui est mis sur sa bouche pour purifier sa bouche. C'est ce qui nous arrive lorsque l'Esprit Saint régénère nos cœurs. C'est comme ce tison qui vient changer nos paroles, notre façon de nous exprimer. Donc, le juste apprend à dompter sa langue. Mais de vivre au milieu des lèvres impures, ça le fait réagir comme on le voit au verset 4. Que l'Éternel extermine toutes les lèvres flatteuses, la langue qui discourt avec arrogance. Donc, au verset 3, il décrit cette langue, et au verset 4, il exprime comment il se sent vis-à-vis de cette parole déchue. Le verbe qu'il utilise pour exterminer, c'est le verbe « karat » en hébreu. Alors, je suis certain qu'il y en a certains ici qui savent ce que le verbe « karat » veut dire. On étudie un livre de théologie en ce moment, puis c'est un verbe qui est utilisé en particulier dans le contexte de l'alliance. Quand on « karat » une alliance, « karat berit » en hébreu. Alors, qu'est-ce que ça veut dire « karat » Coupé, voilà. Mais en plus, vous l'aviez dans mes notes, fait que c'était super facile. Coupé. Donc, le verbe peut avoir un champ sémantique plus large que juste couper. Pourquoi qu'on coupe une alliance? Parce qu'on coupait les animaux par le milieu pour passer au milieu d'eux, prendre la malédiction de l'alliance, et on coupe l'alliance pour dire si je transgresse l'alliance, bien que je sois coupé, que je sois exterminé comme ces animaux. On coupe l'alliance par la circoncision, on coupe un petit bout. Donc, quand il dit qu'il extermine toutes les lèvres trompeuses, il est en train de dire qu'il leur coupe la langue. C'est un peu violent, hein, la Bible, par moment. Mais c'est intéressant que ce verbe qui est utilisé pour couper une alliance soit utilisé ici. J'ai aimé comment Alan Harmon, un théologien australien, a fait le lien entre le fait de couper une alliance et l'application ici. Le verbe « retrancher », couper, karat, renvoie à la menace de Genèse 17, 14, selon laquelle toute personne infidèle à l'alliance sera retranchée. Mais plutôt que de couper une alliance avec le Seigneur, karat verit, ils sont retranchés, c'est-à-dire exécutés. Donc, autrement dit, ceux dont la bouche ne sera pas purifiée par le feu de l'Esprit-Saint qui régénère, seront retranchés. Alors, le psalmiste dit qu'il en soit ainsi. Parce que l'âme du juste est journellement tourmentée par la langue impie. Pierre nous parle de Lot, le juste, qui vivait à Sodome et Gomorre. Et il nous dit que journellement, il tourmentait son âme juste à cause de toute la méchanceté qu'il voyait, qu'il entendait au milieu des impies. Donc, le juste se sent un peu comme ça. Il ouvre la télé, il ouvre la radio, il va au travail, et continuellement, il est agressé par des paroles blasphématoires, par des paroles mensongères, par des paroles flatteuses et vides qui l'incitent à la complaisance avec son propre péché, qui défie Dieu, qui rejette Dieu et ses voies. Et ça dérange le juste dans sa quiétude, dans ce qu'il veut véritablement poursuivre, parce que Dieu lui a donné un nouveau cœur. Alors le juste s'exprime comme Anne, la maman de Samuel, au début du premier livre de Samuel, chapitre 2, verset 9, dans son cantique. Il y a une phrase où elle dit « Mais les méchants seront réduits au silence. » Ah, ceux qui discourent avec arrogance seront réduits au silence dans les ténèbres, car l'homme ne triomphera point par la force. En fait, il ne s'agit pas d'une bataille contre nous, même si parfois on a l'impression que c'est nous qui sommes agressés. C'est contre Dieu. Et le verset 5 le fait ressortir. Ceux qui disent « Nous sommes puissants par notre langue, nous avons nos lèvres avec nous, qui serait notre maître? » Donc, après nous avoir décrit au verset 3 en quoi consiste la nature de la bouche déchue, avoir exprimé au verset 4 un désir qu'il y ait un jugement de Dieu pour faire taire ces vains discours, au verset 5, il revient encore en décrivant en quoi consiste ces paroles vaines, et ce n'est pas seulement quelque chose qui heurte le juste, c'est une rébellion contre Dieu. Par sa bouche, l'homme déclare son refus de se soumettre à Dieu. Comment est-ce qu'on voit, comment est-ce qu'on constate la rébellion des hommes? On le voit parfois dans leurs actions, dans la méchanceté des actions, le meurtre, le vol. Mais la bouche, l'Écriture nous dit, c'est le monde de l'iniquité. La langue, c'est le monde de l'iniquité. Elle est ce qui révèle la nature déchue, la déchéance du cœur et l'hostilité envers Dieu. Comment? En exprimant le dédain pour les voies de Dieu, comme en Job 21, 14 et 15, il disait pourtant à Dieu, « Retire-toi de nous! Nous ne voulons pas connaître tes voies! » Qu'est-ce que le Tout-Puissant pour que nous le servions? Que gagnerons-nous à lui adresser nos prières? Quand les hommes disent « J'en veux pas tes voies, j'ai rien contre ton Dieu, je m'en fous, je veux juste pas suivre ses voies. Retire-nous, retire-toi de nous, laisse-nous tranquilles. » Ils manifestent leur refus de se soumettre à Dieu, leur dédain. Parfois, ça va plus loin que simplement un refus, un dédain de ses voies, mais ça va avec un refus catégorique, le point levé de ce que Dieu, contre ce que Dieu ordonne. On le voit avec Pharaon. Dieu lui dit « Laisse aller mon peuple pour qu'il me serve. » Et Pharaon répond, Exode 5, 2, « Qui est l'Éternel ?» pour que j'obéisse à sa voix, en laissant aller Israël. Je ne connais point l'Éternel et je ne laisserai point aller Israël. Voici ce que Dieu dit. Qui est l'Éternel? Donc les hommes refusent catégoriquement. Certains font juste négliger, être indifférents, veulent pas en savoir plus, mais d'autres entendent clairement l'appel à la repentance, l'appel à l'obéissance des commandements de Dieu et disent « Non! Je refuse ce que Dieu me demande. » Et certains vont encore plus loin en s'attaquant à ses messagers et à son oint. Jérémie 18, 18. Et ils ont dit « Venez, complotons contre Jérémie, car la loi ne périra pas faute de sacrificateur. » ni le conseil faute de sage, ni la parole faute de prophète. Venez, tuons-le avec la langue. Ne prenons pas garde à tous ces discours. Et combien de prophètes, combien de prédicateurs ont été mis à mort et le sont encore? Parce que les impies, rebelles, refusent la parole de Dieu et veulent se débarrasser du message en tuant le messager. Et on a vu au début du livre des psaumes, cette thématique, Dieu établit un roi, son oint, et les rois de la terre se soulèvent. Les princes se liguent avec eux contre l'Éternel et contre son oint. Et qu'est-ce qu'ils disent? Brisons leurs liens, délivrons-nous de leurs chaînes. Vous voyez la bouche encore, qui disent, qui sera notre maître? Nous avons nos lèvres avec nous. Il est hors de question qu'on se laisse dominer par l'Éternel et par son oint. Et il y a quelque chose de complètement ironique dans cette prétention des hommes d'être libre, d'être des affranchis de la religion et de l'obscurantisme de la religion chrétienne et de la parole de Dieu. On est des libres penseurs, pas comme vous. Vous, les chrétiens, qui êtes des petites gens faibles, serviles, soumis, asservis à votre Dieu tyrannique, nous, on est libres. Qui serait notre maître? Spurgeon fait ressortir l'ironie de leurs propos. Les libres penseurs sont en général de très libres parleurs. Ils ne sont jamais plus à l'aise que lorsqu'ils s'insurgent contre la domination de Dieu et qu'ils s'arrogent une licence illimitée. Ils crient avec orgueil « Qui est notre maître ?» et n'entendent pas la voix sourde du malin qui crie depuis le lac infernal « Je suis votre maître et vous me servez fidèlement. » Arrive le verset 6, qui est la réponse de Dieu au cri du psalmiste du verset 2. « Au secours, Éternel! Je vis au milieu d'hommes aux lèvres impures, rebelles, qui s'attaquent à ton peuple, qui disparaît, les justes s'en vont, les méchants sont partout, ils imposent leur pouvoir sur la terre par leur langue, par leur bouche, rebelles. » Dieu ne laisse pas ses enfants être opprimés par les hommes. Il dit au verset 6, « Parce que les malheureux sont opprimés et que les pauvres gémissent, maintenant, dit l'Éternel, je me lève. J'apporte le salut à ceux contre qui l'on souffle. » Le secours ici, c'est pas le... Je ne pense pas qu'il est question spécifiquement du salut au sens sotériologique, du pardon des péchés, de la délivrance par la croix de Jésus-Christ ou du jugement final où Dieu va... intervenir contre la bouche des méchants. Tout ça est sous-entendu, mais le psaume ensuite nous montre un secours spécifique que Dieu apporte à son peuple opprimé. Un secours qui va lui permettre de vivre au milieu de lèvres impures qui cherchent à dominer par ses discours vains, par sa vaine philosophie. Quel est notre secours? Quel est notre salut dans un monde rempli de mensonges? La parole de Dieu. La parole divine. L'homme parle et l'homme cherche à imposer son pouvoir par la parole. Dieu parle. Et Dieu affranchit les siens par sa parole de la parole tyrannique des hommes. D'un côté, on a une parole de mensonge, de l'autre, on a une parole de vérité. On a une parole trompeuse et on a une parole pure et éprouvée. Une parole qui tyrannise et une parole qui libère. James Hamilton fait l'application suivante pour nous, qui est très contemporaine. Il écrit « Quand on dit que deux hommes ou deux femmes peuvent se marier et que ceux qui disent le contraire sont des abrutis, et quand toutes sortes de rebelles à Dieu et au Christ pensent que leur capacité à persuader les gens leur permettra de vaincre le Seigneur lui-même. Hier comme aujourd'hui, la déclaration du Seigneur selon laquelle il se lèvera pour délivrer ses fidèles persécutés et poursuivis a plus de valeur pour les croyants que l'argent le plus pur. Les paroles de Dieu sont vraies et pures et il les fera respecter lui-même. Tel est le message du psaume 12 et telle est notre espérance aujourd'hui. » Donc notre secours dans un monde sans repère, dans un monde rempli de mensonges, de vanités, de vains discours, de menaces, c'est la parole de Dieu qui nous préserve, qui garde notre âme, qui nous empêche de dériver, de penser les pensées de l'homme après lui, de rester au diapason de la vérité, de ne pas être emporté, de ne pas suivre la parade joyeusement et stupidement, sans savoir exactement où on s'en va, mais on va dans ce sens-là parce que tout le monde va dans ce sens-là. Psaume 12, verset 7. « Les paroles de l'Éternel sont des paroles pures, un argent éprouvé sur terre au creuset et sept fois épuré. » Donc, où est-ce qu'on les trouve, les paroles de Yahweh? Et c'est important parce qu'il y en a beaucoup, même parmi les chrétiens, qui prennent leurs propres pensées pour les paroles de Dieu. Dieu me dit. Où c'est qu'il t'a dit ça? Dans mon rêve, dans mes pensées, dans une intuition. Et nous croyons bien sûr que Dieu met des intuitions et à cœur à ses enfants des choses. Mais la façon que Dieu nous parle, ce qu'on appelle la parole de l'Éternel, c'est l'Écriture. Et rien d'autre. Ésaïe déclare, « Si l'on vous dit, consultez ceux qui évoquent les morts, ceux qui prédisent l'avenir, qui poussent des sifflements et des soupirs. » C'est les charismatiques de l'époque. On va aller chercher une parole directe par des voix occultes, des voix surnaturelles, extatiques. Répondez, un peuple ne consultera-t-il pas son Dieu? S'adressera-t-il aux morts en faveur des vivants, à la loi et au témoignage, au registre, à ce qui est écrit, au dépôt de la foi, à l'Écriture sainte? Si l'on ne parle pas ainsi, il n'y aura point d'aurore pour le peuple. Et ceci dit, en tout respect pour nos frères charismatiques, on déjeunait justement avec eux vendredi dernier avec des belles conversations. Mes frères et sœurs, on ne se laisse pas diriger par des paroles de prophétie qui viennent de sortir. Je suis revenu de ce déjeuner avec quelqu'un qui m'a donné une parole de Dieu qu'il avait reçu pendant la nuit. J'aime mieux dire à la loi et au témoignage. J'ai l'Écriture. Je n'ai pas besoin qu'on y ajoute. Je n'ai pas besoin qu'on en retranche. Parce que notre nature charnelle est trop encline à se laisser persuader par ses propres désirs qu'elle va dire, c'est Dieu qui m'a dit. C'est l'Esprit qui m'a montré. Et tout en suivant ses intuitions de l'esprit, on marche dans la désobéissance à la parole écrite. Les paroles de Yahweh qui sont pures, qui sont d'un argent éprouvé, c'est l'Écriture sainte. C'est la Bible. Mais c'est un peu curieux de nous dire qu'elle a été purifiée, parce que c'est l'image qui est donnée. On prend l'argent qui est un métal précieux, mais qui n'est pas pur, qui doit être purifié parce qu'il y a des impuretés. Il y a des alliages qui ne sont pas proprement l'argent, donc on doit l'éprouver dans le creuset avec le feu plusieurs fois pour en enlever à chaque fois un peu plus d'impureté pour n'avoir à la fin que de l'argent pur. Alors, comment est-ce qu'on comprend cette image avec la parole de Dieu? Est-ce que la parole de Dieu était amalgamée à la parole des hommes? Il faut la purifier. La Bible de théologie, NIV, écrit « Ces images de la métallurgie évoquent le processus d'élimination de toutes les imperfections des métaux précieux. Les paroles de Dieu n'ont pas besoin de passer par ce processus, mais elles sont comme le produit fini, impeccable, inestimable. En revanche, les chrétiens peuvent connaître un tel affinage et une telle mise à l'épreuve qu'ils subiront à l'honneur et à la gloire de Dieu. » Donc, ce n'est pas tant que la parole de Dieu a dû être purifiée parce qu'elle était impure. Elle est, dès qu'elle sort de la bouche de Dieu, comme ce produit fini, parfaitement pur. Toute Écriture est inspirée. Elle est parole de Dieu. Mais elle a été néanmoins éprouvée, cette parole, au creuset. À nouveau, Spurgeon écrit, « La Bible est passée par la fournaise de la persécution, de la critique littéraire, du doute philosophique et de la découverte scientifique, et n'a rien perdu, sinon les interprétations humaines qui s'y sont accrochées comme l'alliage étranger au précieux métal. » Il est vrai qu'il y a certaines interprétations de la Bible qui n'ont pas résisté à ces différents feux, ces différentes fournaises par lesquelles elle est passée. Mais la parole pure est restée intacte. Certaines interprétations ont pu changer avec le temps, mais pas la parole qui est pure. Alors, c'est toujours important de distinguer entre la parole de Dieu et nos interprétations de celle-ci. Mais la juste interprétation de la parole de Dieu est la parole de Dieu. La prédication de la parole de Dieu est la parole de Dieu. Donc, on ne peut pas dire, « Ah, oh, mais ça, c'est juste ton interprétation. » La parole s'interprète elle-même. On l'harmonise entre elles. Elle n'a pas été donnée comme un livre obscur que personne ne peut comprendre, puis on ne sait pas qui a raison. Elle a été élevée et confessée par l'Église, qui est la colonne et l'appui de la vérité, qui nous a donné un témoignage historique, non pas infaillible, qui n'a jamais été amélioré, mais qui est beaucoup plus certaine que les élucubrations des 20 prophètes qui disent « Ah, le Seigneur me montrait que... » Donc, ce qu'elle veut dire, c'est une bonne confession de foi avec la Bible, c'est le meilleur outil pour la comprendre. Ce psaume termine avec l'effet de préservation de la parole de l'Éternel chez les siens, au verset 8. « Toi, Éternel, tu les garderas, tu les préserveras de cette race à jamais, de cette génération. Dieu sanctifie ses enfants par sa parole et les préserve ainsi de la pensée des hommes, de la vaine pensée du monde. » Vous savez, on reste un peu mondain quand on devient chrétien. Il faut passer par un processus, il y a un renouvellement de l'intelligence qui est instantané, mais qui culmine dans un renouvellement qui est progressif. Donc, il se passe un changement immédiat dans nos affections, dans notre façon de voir, mais on ne devient pas un super théologien du jour au lendemain. Il faut apprendre à penser les pensées de Dieu. Il faut réapprendre la juste moralité. Il faut déconstruire comment on a été imbibé par la pensée des hommes, pour reconstruire. C'est comme ça que Dieu envoie Jérémie. « Je t'ai envoyé pour que tu arraches, détruises, abattes, et que tu rebâtisses, tu replantes, tu reconstruises. » Comment? Par la parole dont il va être le porteur, la parole prophétique. Donc, Dieu garde ses enfants, il les préserve de cette race, c'est-à-dire de ceux qui sont les méchants de ce monde, qui marchent partout pour imposer leur pouvoir par la langue, qui défient la parole de Dieu, qui la rejettent. Comment est-ce que Dieu nous garde en étant attaché à sa parole? L'avez-vous lu toute la semaine? Je serais curieux, je pourrais dire, levez la main ceux qui l'ont lu, mais j'ai envie de dire, levez la main ceux qui ne l'ont pas lu, mais je ne le ferai pas, je ne le ferai pas. Mes frères, mes sœurs, on a besoin de cette parole pour être préservé, pour que notre intelligence soit nourrie, pour être affermie. Combien d'heures sommes-nous exposés à la parole des hommes? Sur les réseaux sociaux, dans les conversations, au travail, certains sont mariés avec quelqu'un qui constamment afflue dans le foyer de cette pensée qui est celle des hommes. Et on doit cohabiter et chercher à préserver la vérité sans la compromettre. C'est difficile. Alors Dieu sanctifie et préserve ses enfants de la pensée du monde, de la pensée déchue, par la parole de vérité. C'est ce que dit Jésus dans Jean 17, 15 à 17. « Je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du malin. Ils ne sont pas du monde comme moi, je ne suis pas du monde. Sanctifie-les par ta vérité. Ta parole est la vérité. » Elle nous affranchit des paroles mensongères. Jésus dit dans Jean 8, 31, 32, il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, « Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. » Elle vous libère des mensonges qui vous gardent captifs, du péché et des vains raisonnements qu'on se donne à soi-même, avec lesquels on se justifie, mais qui nous rendent captifs. On est affranchi du péché, comme le dit le psalmiste, et je termine avec cette dernière citation. 119, versets 9 à 11. « Comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier? En se dirigeant d'après ta parole. Je te cherche de tout mon cœur. Ne me laisse pas m'égarer loin de tes commandements. Je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. » Amen.